France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée en 2017. Inconnu des Français 3 ans auparavant, ce jeune énarque devient à 36 ans le plus jeune ministre de l'économie de la 5e République. 2 ans plus tard, il se lance dans un pari fou, devenir président de la République. Lui qui n'a jamais été élu se lance sans parti dans la course électorale la plus prestigieuse. Dans le monde politique et médiatique, beaucoup observent cette candidature audacieuse avec amusement. Cette campagne-là, 2017, parmi toutes, est sûrement l'une des plus riches en rebondissements. Et quasiment tout a joué en faveur d'Emmanuel Macron. L'affaire Fillon d'abord, et avant tout, le retrait de François Hollande et de DSK 11 mois plus tôt, les débordements de Jean-Luc Mélenchon, la légèreté de Marine Le Pen lors du débat d'entre-deux-tours, et, bien sûr, les qualités intrinsèques d'Emmanuel Macron, un incroyable alignement des planètes. Alors, Macron 2017, génie politique, candidat du système, produit de son époque, traître méthodique ou braqueur électoral. C'est probablement tout cela à la fois. Notre invité aujourd'hui, le journaliste Marc Andevelde, auteur des ouvrages « L'ambigu Monsieur Macron » publié chez Flammarion et « Le grand manipulateur, les réseaux secrets de Macron » publié chez Stock. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Adrien Mora, rédaction en chef Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca Donante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Mai 2017, Paris, esplanade du Louvre. Le nouveau président Emmanuel Macron fête sa victoire. C'est un lieu symbolique. Le Louvre rappelle la royauté, l'Empire et François Mitterrand, avec la fameuse pyramide qui trône dans la cour depuis 1988. Le jeune président enfile immédiatement les vieux habits de notre république monarchisante. Le ton est donné. Sur l'esplanade, des milliers de militants et de sympathisants attendent l'arrivée du héros. Et c'est sur les notes de l'Ode à la joie de Beethoven, l'hymne de l'Union européenne, qu'Emmanuel Macron entame une longue marche solitaire vers l'estrade située devant la pyramide. Des Macron présidents émergent de la foule. Alors il la salue, la foule, qui le filme avec des smartphones. Et sur France 2, on commente « Le 8e président, le plus jeune depuis Napoléon, il a 39 ans, il est né à Amiens dans la Somme. » Arrivé sur scène, l'heureux élu délivre son second discours de la soirée devant une foule enthousiaste. Sur son pupitre, le drapeau bleu-blanc-rouge, bien sûr, cette formule passe-partout, ensemble la France, et une conclusion en forme de câlinothérapie.
Je respecterai chacune et chacun dans ce qu'il pense et dans ce qu'il défend. Je rassemblerai et je réconcilierai, car je veux l'unité de notre peuple et de notre pays. Et enfin, mes amis, je vous servirai avec humilité, je vous servirai avec amour. Vive la République ! Vive la France !
À la fin du discours, sa femme Brigitte le rejoint sur la scène. Le nouveau couple présidentiel, main dans la main, envoie des baisers à la foule. Emmanuel et Brigitte sont ensuite rejoints par de la famille et des militants. Place à la Marseillaise, jouée par l'orchestre. Macron entreferme les yeux, la main sur le cœur. On a gagné, scande pour finir les militants et les sympathisants. Devant leur télévision, de nombreux Français ont du mal à réaliser. Un homme de 39 ans, jamais élu, vient de remporter une élection présidentielle sans parti politique. Pour comprendre cette alchimie, comment cela a pu arriver, remontons moins de 3 ans plus tôt, à la fin de l'été 2014. Mardi 26 août, cour de l'Élysée, l'annonce du gouvernement Valls II est imminente. Les journalistes attendent patiemment la venue du secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet. Des poids lourds du gouvernement s'en vont. Benoît Hamon à l'éducation, Aurélie Filippetti à la culture et Arnaud Montebourg à l'économie, autant dire l'aile la plus à gauche. Jean-Pierre Jouyet se présente alors devant le perron et égrène les noms des nouveaux ministres.
Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
Jean-Pierre Jouyet esquisse un petit sourire lorsqu'il prononce le nom d'Emmanuel Macron. Après tout, c'est un peu son poulain, oui. C'est lui qui a repéré ce jeune énarque lorsqu'il était à la tête de l'Inspection Générale des Finances. Et c'est lui, également, qui a soufflé le nom de Macron au président Hollande pour qu'il devienne secrétaire général adjoint de l'Élysée. Dès 2010, l'intéressé soutient François Hollande dans le cadre de la primaire. Il devient naturellement proche du patron du PS. Quand l'affaire DSK éclate, il comprend alors qu'il a misé sur le bon cheval. Après la victoire, il devient secrétaire général adjoint de l'Élysée, notamment en charge des affaires économiques. Pour les initiés, la nomination d'Emmanuel Macron comme ministre de l'économie, c'est un coup de barre à droite. Mais les Français, eux, ne le connaissent pas, ce jeune ministre de 36 ans. Extrait de portrait diffusé dans les JT.
Et l'inconnu qui arrive en pleine lumière, c'est donc Emmanuel Macron, l'ancien conseiller économique de François Hollande, ancien banquier d'affaires.
Emmanuel Macron, connu pour être eh bien, un ancien banquier d'affaires de chez la grande banque Rothschild, millionnaire, disent certains à gauche pour le critiquer.
Emmanuel Macron, ou l'ascension fulgurante d'un surdoué. Énarque, assistant du philosophe Paul Ricoeur, puis banquier d'affaires chez Rothschild, ses talents et son éclectisme font mouche à chaque fois. Proche de Jacques Attali, il est le rapporteur de la Commission pour la libération de la croissance, créée par Nicolas Sarkozy en 2007.
Macron, c'est aussi une arrivée à Paris en classe de terminale au lycée Henri IV, une prépa littéraire et le rêve d'intégrer l'école normale supérieure. Résultat, 3 échecs de suite au concours de l'ENS. Il se rabat alors sur Sciences Po et un master de philosophie. En revanche, il réussit l'ENA et intègre à sa sortie la prestigieuse Inspection Générale des Finances. Plutôt à gauche, mais pas trop, pas très politisé en fait. Emmanuel Macron se distingue par sa facilité à créer des liens et sa capacité à attirer la sympathie des vieux messieurs. Le philosophe Paul Ricoeur, par exemple, et le riche patron Henri Herment, qui financera son mariage avec Brigitte. Mais c'est sans doute en intégrant la commission Attali que le jeune Macron va impressionner dans les hautes sphères parisiennes. Repéré par Attali lui-même pour faire partie de ce chantier pour la libération de la croissance française, voulu par Nicolas Sarkozy, le jeune Macron est alors âgé de 29 ans. Dans ce Raoult qui fleure bon le néolibéralisme, il imprime sa bonne humeur et son art du compromis dans un groupe où il faut gérer des égos bien dimensionnés. Un membre de la commission explique dans l'ouvrage de Marc Andevelde, l'ambigu Monsieur Macron, Emmanuel était moins autoritaire qu'Attali, plus amical. Il arrivait à résumer les idées, à en faire surgir des nouvelles. Grâce à ses prestations et à son audace, il s'ouvre ainsi les portes du capitalisme français. Et son carnet d'adresses s'élargit. Il hésite à se lancer dans une carrière politique et il penche finalement vers la banque d'affaires Rothschild. Un passé qui ressurgit quand il devient ministre, forcément. Très décrié à gauche et par certains opposants, cette nomination fait polémique. Le président normal, ennemi de la finance, nomme un ministre de l'économie qui est un ancien banquier de chez Rothschild. Le message envoyé est ambigu. Le soir même, sur le plateau de France 2, le Premier ministre Manuel Valls défend la nomination d'Emmanuel Macron, qui, et il est probablement loin de s'en douter, deviendra son plus grand rival.
Parce que la nomination d'Emmanuel Macron, pratiquement poste pour poste, à la place d'Arnaud Montebourg, est un symbole d'un tournant libéral.
Mais Emmanuel Macron, qui est un socialiste, était le collaborateur...
Ex-banquier chez Rothschild, on l'a entendu.
Et alors ? On ne peut pas, dans ce pays, être entrepreneur ? On ne peut pas être banquier ? On ne peut pas être artisan ? On ne peut pas être commerçant ?
Revenons en 2008, au début de sa carrière chez Rothschild. À 30 ans, voilà Emmanuel Macron propulsé à un poste élevé dans la hiérarchie. Jalousé pour ce catapultage, il doit déjouer toutes les embûches et s'avère bon négociateur, mais sans scrupules. Comme ce jour où, alors qu'il conseille bénévolement la Société des journalistes du journal Le Monde, Il est aperçu par l'un d'eux avec Alain Minc, l'une des parties prenantes dans le processus du rachat du journal. Alors, joue-t-il double jeu ? En tout cas, le voilà pris la main dans le sac. Il le sait, et part se réfugier au sixième étage du bâtiment. Et comme il l'explique lui-même à des journalistes américains, c'est son travail de banquier d'affaires, après tout. D'une certaine manière, on est comme une prostituée, le boulot, c'est de séduire, dit-il. Mais son très gros coup, c'est d'avoir négocié le rachat de la filiale de lait infantile de Pfizer par le groupe Nestlé, un deal de 12 milliards de dollars conclu en avril 2012. Il y gagne officiellement plus de 700 000 euros et un surnom, le Mozart de la finance. C'est donc ce virtuose présumé qui arrive à Bercy et qui remplace un homme qu'il connaît bien, Arnaud Montebourg. En tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée, chargé notamment des affaires économiques, il connaît bien le matamore socialiste. Il a eu souvent affaire à lui. Mais si les premiers mois de collaboration ont été productifs, très vite des dossiers les ont opposés, Florange et Alstom notamment. Mardi 27 août 2014, Bercy, ministère de l'économie. Le jour de la passation des pouvoirs, les sourires sont de façade et les petites phrases sont de sortie entre Arnaud Montebourg et Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, en pleine lumière, propulsé ministre de l'économie, il a souvent été décrit comme un social libéral.
J'arrive tout auréolé d'une réputation qui m'est faite par la presse, je dois le dire. Jugez-moi sur les actes et sur les paroles.
Bonne chance, Manu. Et vive le redressement productif de l'économie française.
Ainsi le veut la tradition républicaine, les deux rivaux se quittent avec le sourire. L'un des anciens collaborateurs de Macron le décrit dans l'ambigu Monsieur Macron. C'est son côté Hollande, voyez-vous, une petite tape dans l'épaule et il vous neutralise. C'est aussi sa force politique, la simplicité du contact qu'il imprime. Macron est beaucoup plus chaleureux que n'importe quelle icône de la gauche. C'est comme s'il était le fils issu d'une GPA de Laurent Fabius, extrêmement intelligent, et de Michel Charras, extrêmement chaleureux. Emmanuel Macron, habitué à être dans l'ombre, commence ainsi son baptême du feu chez les médias. Et trois semaines après sa nomination, c'est la boulette, au micro d'Europe 1.
Sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours.
Ouvrière, illettrée. Tout le monde n'y voit que du mépris. Et le jeune ministre obtient vite une consécration, une marionnette au guignol de l'info, c'est bébé Macron.
Monsieur Hollande, vous ne pensez pas que c'est dangereux de nommer un homme aussi jeune et sans expérience à un ministère aussi crucial ?
Ah non, ne vous inquiétez pas, hein. Emmanuel, il sait très bien ce qu'il veut.
MEDEF.
Vous avez vu, il progresse vite, hein. Il a déjà prononcé ses premiers mots.
Les ouvriers sont trop payés.
Il est trop mignon.
À Bercy, bébé Macron s'entoure d'une équipe jeune avec un certain Alexis Kohler, auquel nous avons consacré un épisode d'Affaires Sensibles. Le 7 janvier 2015, qui est aussi le jour de la tuerie de Charlie Hebdo, et c'est peut-être pour ça qu'on l'a partenu, il y a cette petite phrase en visite à Las Vegas qui sort dans le journal Les Échos. Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires. Comprenez, avec le nouveau ministre, place à la Startup Nation. Ce ministre jeune qui parle anglais à la cote à l'étranger. Et en France, il se démène, remue et bouscule son administration, n'hésite pas à marcher sur les plates-bandes des autres ministères, il veut réformer et vite. Chouchou de Hollande, il peut d'ailleurs compter sur les arbitrages favorables du président de la République. Ce qui n'est pas du goût des autres ministres, comme Michel Sapin aux finances, qui n'hésite pas à dire en off, Macron, c'est un con. Quoi qu'il en soit, l'année 2015 marque le lancement de sa loi, loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. Ce ministre hyperactif de l'économie entend réformer différents secteurs avec une réforme que ses opposants qualifient de fourre-tout. Les transports en autocar, le permis de conduire, la justice prud'homale, les professions du droit ou encore le travail dominical. Emmanuel Macron se lance alors dans un marathon parlementaire avec de longues heures passées en commission. car il faut convaincre les frondeurs socialistes. Ça tombe bien. Débattre et séduire, il adore ça. Et le 26 janvier 2015, il présente sa loi à l'Assemblée.
Elle insufflera une nouvelle dynamique. Elle nous redonnera confiance en nous-mêmes. Elle nous autorisera aussi à être plus exigeants avec nos partenaires et avec l'Europe. Comment leur demander plus si nous ne faisons pas nous-mêmes nos propres réformes pour nous-mêmes? C'est la clé de notre croissance, de notre crédibilité, de notre avenir commun. Cette loi, elle est une première étape. Elle sera suivie d'autres décisions. Elle montre simplement que nous reprenons notre destin en main.
Alain Minc, l'un des mentors d'Emmanuel Macron, est surpris par les talents de son poulain. « Là où il m'a bluffé, dit-il, c'est avec son travail au Parlement. Y passer ses nuits et effacer les divergences idéologiques par la gentillesse, c'est un coup génial. » Un coup génial qui va être gâché par son propre camp. À quelques jours du vote de la loi, en effet, ça s'agite du côté du Parti Socialiste. François Hollande aime voir son jeune ministre de l'économie faire de l'ombre à son premier ministre, Manuel Valls. Et ce dernier aimerait bien savonner la planche de ce jeune libéral qui le ringardise. Dans un jeu très politique, politicienne de parti, le gouvernement, qui avait le champ libre pour obtenir une majorité, va s'enliser dans le doute et les frondeurs vont sortir du bois. Benoît Hamon, qui réclame un amendement sur le travail du dimanche, se le voit refuser. Il annonce alors voter contre la loi. Manuel Valls dégaine le 49-3. Le ministre de l'économie est touché. Un proche explique. Il a pris un coup sur la tête. Mettez-vous à sa place. Il était comme un marathonien à qui on aurait fait un croche-patte à 10 mètres de l'arrivée. Mais le marathonien se relève avec une ambition intacte. D'ailleurs, peut-être pense-t-il déjà à la table d'après, l'Élysée. Bon, difficile à dire, mais une chose est certaine. Il profite de son ministère pour organiser de nombreux repas, élargir son réseau et lancer un mouvement dès la fin du mois de juin 2015, les jeunes avec Macron. Accompagné de sa femme Brigitte, qui a quitté son poste de professeur au prestigieux lycée Franklin, les deux tissent leur toile. Un jour, le grand visionnaire Alain Minc lance à Emmanuel Macron. En 2017, je voterai pour Juppé. En 2022, je voterai pour Valls. Et en 2027, je voterai pour toi. Réponse immédiate de Macron. Alors, je vais accélérer.
Faire tomber le verrou, la cloison, l'écrou. Faire tomber la serrure. Frapper un grand coup pour de bon, faire un trou. Puis faire tomber le mur. Puis courir, courir plus vite. Quitter le site, rejoindre la sortie. Franchir la limite, bâton dynamite. Enfin sortir d'ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un peu plus de jour, un peu plus de ciel. Revoir le paysage. Monter dans la tour, en voir de plus belle. Oui, avoir la vue large. Oui, enfin voir la vue, enfin voir dessus. Prendre de la hauteur. Enfin voir la vue, enfin voir l'issue. Voir si elle est meilleure. Pourquoi pas?
Aujourd'hui, l'élection d'Emmanuel Macron en 2017.
France Inter, affaires sensibles.
6 avril 2016, Amiens, ville natale d'Emmanuel Macron, 382 jours avant l'élection présidentielle. Le ministre de l'économie lance son mouvement politique En Marche, qui reprend ses initiales. Transpartisan, ni de droite ni de gauche, ou de droite et de gauche, En Marche vise à rassembler tous ceux qui veulent se mettre à marcher, donc. Bien, mais vers quoi? Emmanuel Macron l'explique.
J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Mais je veux travailler avec des gens qui se sentent aujourd'hui à droite. Aussi.
La suite confirmera ces mots et au-delà. En attendant, la Macronie diffuse un clip choc avec des phrases telles que « L'ascenseur social est en panne pour des millions de Français ». »« Les Français ont un potentiel et un talent qui n'attend que d'être reconnu pour repartir de l'avant ». Avant de conclure, « Oui, il est temps de se mettre en marche ». 8 mai 2016, fête joannique d'Orléans, un an de la présidentielle. Ce jour-là, on célèbre Jeanne d'Arc. Emmanuel Macron est venu prononcer un discours en son honneur. Il loue celle qui a fendu le système et a su rassembler le pays. Serait-ce un début de programme? Vendredi 27 mai 2016, Lunel dans l'Hérault, le ministre de l'économie visite l'école du numérique. Et à sa sortie, deux militants de Nuit Debout l'interpellent sur la loi travail. Et là, c'est le dérapage.
Mais moi, je n'ai pas le droit de recevoir. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer.
Mais parce que ce qui a bloqué la France, c'est le 49.3,
monsieur Macron. Monsieur Macron, vous n'allez pas me faire peur à votre cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
Voilà,
c'est de travailler.
Donnez du travail.
Beaucoup y voit, beaucoup de mépris. Une critique qui lui collera à la peau comme le pansement du capitaine Haddock. En ce mois de juin 2016, alors que l'opposition dans la rue face à la loi travail s'intensifie, le ministre de l'économie ne pense qu'à une chose, quand et comment démissionner. Délicat, tant il ne veut pas passer pour un traître. Alors, pendant la loi travail, il est en retrait, loin derrière la ministre Myriam El Khomri qui porte le chapeau. Il n'hésite pas non plus à critiquer directement le projet de Manuel Valls sur la déchéance de nationalité. 12 juillet 2016, Paris, à 285 jours de la présidentielle. À la Mutualité, le toujours ministre de l'économie Macron tient son premier meeting En Marche. Dans un show à l'américaine, sans cravate, il lance à ses sympathisants. À partir de ce soir, nous devons être ce que nous sommes, c'est-à-dire le mouvement de l'espoir. Ce mouvement, nous le porterons ensemble jusqu'à 2017 et jusqu'à la victoire. Il en profite pour remercier François Hollande de l'avoir nommé ministre, histoire de tacler Manuel Valls et de rendre hommage à Michel Rocard, l'un de ses mentors décédé quelques jours plus tôt. Deux jours plus tard, ce sont les attentats de Nice. Le ministre de l'économie repousse sa démission. 11 août 2016, 255 jours avant la présidentielle. Les Français découvrent à la une de Paris Match Emmanuel Macron et sa femme Brigitte en maillot de bain, les pieds dans l'eau, à la plage, sous le titre exclusif « Vacances en amoureux avant l'offensive ». Passionnant. 20 août 2016, Emmanuel Macron rend une visite au Puy du Fou sur les terres du souverainiste Philippe de Villiers. L'occasion pour lui de conduire un char et de lâcher une phrase choc.
Pourquoi c'est étonnant?
Franchement, vous avez une forme...
Il n'y a jamais eu un ministre socialiste qui a visité le Puy du Fou jusque-là.
Alors, 30, le premier, vous êtes le premier. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Je suis au gouvernement, un gouvernement de gauche. J'ai moi-même pris des initiatives politiques qui ne vous ont pas échappé, nous en avons parlé tout à l'heure. Mais, je veux dire, quelle importance!
31 août 2016, 235 jours avant la présidentielle. Cette fois, c'est la bonne. L'heure de la transgression a sonné. Emmanuel Macron démissionne du gouvernement et crée la stupeur dans les rangs socialistes. Le président Hollande commente en privé « Il m'a trahi avec méthode ». Comme ça, c'est clair. 16 novembre 2016, Bobigny, Seine-Saint-Denis, 158 jours avant la présidentielle. Emmanuel Macron annonce enfin et officiellement sa candidature.
« Je suis candidat à la présidence de la République.
parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Bien sûr, on ne se réveille pas un matin avec cette révélation. La décision de me présenter aux plus hautes charges de la République est le fruit d'une conviction intime et profonde.
Après cette déclaration, le néo-candidat Macron fait une halte à la basilique Saint-Denis, tombeau des rois, histoire de respirer un peu et de beaucoup s'inspirer. Côté sondage, il oscille entre 10 et 15% des intentions de vote, très loin derrière Alain Juppé et Marine Le Pen. Son livre « Révolution » sort le 24 novembre 2016. Sur la jaquette, on peut lire « C'est notre combat pour la France ». À l'intérieur, des thèmes de campagne, oui, mais pas de programme. Trois jours plus tard, le 27 novembre, c'est la première grande surprise. François Fillon vend de la sueur et des larmes, et ça marche. Il remporte la primaire de la droite et du centre. Alain Juppé, le grand favori de l'élection, est hors jeu. 2 décembre 2016, 158 jours avant la présidentielle, François Hollande s'adresse aux Français.
Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
Nouveau coup de tonnerre dans la campagne. C'est la première fois qu'un président en exercice renonce à se présenter pour un second mandat. Avec une cote de popularité catastrophique et affaiblie par deux livres, celui de son ex-compagne Valérie Trierweiler, « Merci pour ce moment », et par son livre d'entretien « Un président ne devrait pas dire ça », François Hollande jette l'éponge. La primaire à gauche est lancée. Macron, lui, déroule sa campagne et tout lui sourit. 10 décembre 2016, Paris, porte de Versailles. Le jeune candidat rassemble ses troupes et ses soutiens lors d'un grand meeting qui restera célèbre avec cet envolé sur son projet.
Votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!
Pour financer sa campagne, Emmanuel Macron multiplie les repas de collecte de fonds. Son projet plaît aux Français de la City de Londres, qui donne allègrement à ce candidat qui n'est ni de droite ni de gauche. Le 29 janvier 2017, Benoît Hamon remporte la primaire organisée par les sociaux-démocrates, les radicaux et les écologistes. Manuel Valls est KO. Il n'hésitera pas d'ailleurs à proposer ses services au candidat Macron. 2 février 2017, à 80 jours maintenant de la présidentielle. À droite, c'est le début de l'affaire Fillon avec le Penelope Gate. Encore une bonne nouvelle pour le candidat Macron, qui avec 20% d'intention de vote, est désormais au coude à coude pour la deuxième place avec le candidat de la droite, toujours derrière Marine Le Pen. C'est dans ce contexte qu'un homme va lui apporter une aide providentielle. Faiseur de roi en 2012 en appelant à voter Hollande, François Bayrou voit Macron réussir là où il a toujours échoué, au centre. Dragué depuis plusieurs mois par Macron, le centriste renonce à se présenter le 22 février et se rallie à qui vous savez.
Parce que le risque est immense. Parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Je lui dis, le danger est trop grand, il faut changer les choses et le faire d'urgence. Unissons nos forces pour y parvenir.
Le candidat Macron accepte les conditions de l'offre de ralliement et peut poursuivre sa course vers l'Élysée avec confiance, avec un programme ni de gauche, ni de gauche. À droite, François Fillon ne se rend pas, ne se retire pas et rassemble ses soutiens au Trocadéro. Le 2 mars 2017, Emmanuel Macron dévoile enfin son programme. Rien de révolutionnaire, du libéralisme et de l'Europe. 4 avril 2017, à 19 jours maintenant du premier tour. Plateau de BFM TV, débat du premier tour donc, entre les 11 candidats. Emmanuel Macron se présente aux Français.
Je crois pour ma part que notre pays aujourd'hui, il est bloqué par un système politique qui ne veut plus des vraies réformes. J'ai vu cela de près. J'ai vu en effet les réformes bloquées par volonté de durer,
par volonté de ne pas faire, parce que des lobbies ou des minorités ne voulaient plus avancer. Eh bien, ce que je vous propose, c'est l'alternance véritable, profonde. Le renouvellement de notre vie politique, complet, avec de nouveaux visages, avec de nouveaux usages, parce que j'ai confiance dans notre pays.
Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, c'est un match à quatre qui se dessine, avec Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Au fil des débats, Macron tente de se dédouaner du quinquennat de François Hollande. Exercice difficile quand on sait qu'il était 2 ans secrétaire général adjoint et 2 ans ministre. Fillon d'ailleurs le surnomme Emmanuel Hollande. En retour, l'ancien ministre de l'économie baptise le candidat de la droite empêtré dans le Penelope Gate, François Balkany. Le 23 avril, jour de verdict et de résultats sur France 2.
Qui sont les qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle? Vous voyez apparaître le décompte, nous y sommes à 5 secondes, 4, 3, 2, 1, il est 20h, voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête à 23,7%, Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%.
Premier au premier tour avec 24% des voix, Macron fête sa presque victoire finale à la rotonde avec ses proches, où il organise déjà les législatives avec ses lieutenants, considérant que le second tour contre Marine Le Pen n'est qu'une formalité, ce qui est tout à fait exact. Pourtant, 3 jours plus tard, la candidate d'extrême droite fait une visite surprise à l'usine Whirlpool d'Amiens, sur les terres de Macron, où le candidat s'est déplacé mais n'est pas venu spontanément à la rencontre des ouvriers. Non, il y va en catastrophe parce que Marine Le Pen y est. Le 3 mai, lors du débat télévisé, la même Marine Le Pen semble brouillonne. Elle ne connaît pas assez ses dossiers, elle ne les maîtrise pas, ce qui est du plus mauvais effet, d'autant qu'Emmanuel Macron s'enfonce dans la brèche, se fait professoral, à la limite d'une arrogance que son adversaire finalement lui sert sur un plateau. Mais la candidate d'extrême droite pointe ce travers du candidat qui ne l'empêchera pas d'être élu dans un fauteuil à l'issue d'une campagne de deuxième tour aussi ennuyeuse que celle du premier tour avait été passionnante.
L'idée qu'on demande toujours des sacrifices aux Français en toutes circonstances, en leur expliquant et en les culpabilisant d'ailleurs, c'est votre grande spécialité, objectivement. Notre régime de retraite ne fonctionne pas, c'est à cause d'eux, c'est parce qu'ils ne travaillent pas assez longtemps, c'est parce qu'ils ne travaillent pas assez. Il y a toujours un phénomène de culpabilisation des Français en toutes circonstances. Et d'ailleurs, s'ils sont au chômage, M. Macron, vous leur dites « c'est de votre faute ».
3 mai 2017, jour J, 47 millions de Français sont appelés aux urnes pour départager les deux candidats. Comme en 2002 pour le second tour Chirac-Le Pen perd, on en appelle au Front Républicain. Mais ils sont nombreux, les Français lassés, dégoûtés de la politique. Et l'un des enseignements majeurs de ce scrutin, c'est que 12 millions de Français se sont abstenus, 3 millions votés blanc et 1 million a voté nul. Le soir, France 2 annonce les résultats.
Il est 20h, voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République.
Emmanuel Macron peut savourer sa victoire. Sans scrupule, il n'hésitera pas à écarter de sa vue de nombreuses personnes qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. Emmanuel Macron séduit et jette. Il est un pur produit politique de son époque. Reste à savoir ce qu'on retiendra du macronisme, un chapitre qui appartient à l'histoire.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Macron 2017, notre invité Marc Andevelde. Bonjour.
Bonjour.
Auteur des ouvrages L'ambigu Monsieur Macron, publié chez Flammarion, et Le grand manipulateur, Les réseaux secrets de Macron, publié chez Stock. Alors, je parlais d'un alignement des planètes, mais enfin, Macron n'est pas non plus seulement Gontran Lachance. Il y est pour quelque chose. Sa compétence en matière de politique y est vraiment pour quelque chose. Il a bien préparé son coup depuis 2014, c'est bien ça?
Ah oui, tout à fait. Il a une vraie habileté politique, Emmanuel Macron. On peut même dire qu'il a préparé son coup dès 2013. À l'époque, ça c'est ce que je raconte dans Le Grand Manipulateur, j'explique qu'il organisait des réunions à l'Élysée avec des communicants de la place de Paris dans le dos de François Hollande en présence de sa femme Brigitte Macron pour préparer son ambition politique par la suite. En 2014, quand il de l'Élysée en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée et qu'il part au printemps 2014, il explique à des proches « La prochaine fois que je reviens ici, ça sera par la grande porte ». Donc effectivement, dans tout son parcours, Emmanuel Macron, il a eu une très forte ambition présidentielle, ancienne. Et d'ailleurs, ses adversaires ont sous-estimé cette envie, en fait, cette envie de pouvoir et d'acquérir le pouvoir et de le conserver.
Alors, on lui propose ensuite le poste de ministre de l'économie. Alors, c'est vraiment intéressant parce que c'est un grand ministère, ça fait partie des ministères régaliens et des ministères de l'intérieur et de l'économie. On en a fait des présidents en France. On lui propose ou il sollicite le poste?
Alors c'est on lui propose, mais c'est pas le premier choix. En août 2014, François Hollande avait pensé à Bertrand Delanoë, il avait pensé à Gérard Collomb. Tous ont un peu plus ou moins refusé. Il avait pensé également à Louis Gallois, qui considérait qu'il était trop vieux, l'ancien patron d'Airbus et de la SNCF. Et donc finalement, c'est Jean-Pierre Jouyet, donc que vous avez cité là, qui était à l'époque secrétaire général de l'Élysée, proche ami de François Hollande, et qui protégeait Emmanuel Macron depuis son passage à l'Inspection Générale des Finances. Et c'est surtout Jouyet qui a poussé le nom de Macron. Et à cette époque-là, Hollande a cru pouvoir utiliser Macron, en fait, dans sa lutte contre son propre Premier ministre, c'est-à-dire Manuel Valls. C'est-à-dire, nommer Macron, c'était une manière de ringardiser Valls sur son créneau politique de la réforme et du libéralisme appliqué au Parti Socialiste.
Mais est-ce que tous ceux qui le soutenaient pensaient qu'Emmanuel Macron pouvait incarner l'après-Hollande, peut-être après une défaite dans la fiction, puisque Hollande ne s'est pas représenté, mais il aurait pu se présenter, admettons qu'il soit battu, donc les gens qui soutenaient Macron auraient pu penser que Macron était le candidat pour après, 5 ans après, qu'il était dans la lignée socialiste, ce en quoi il se trompait.
Oui, beaucoup de gens se sont trempés dans le giron du Parti Socialiste, mais également certains de ses proches. Je parlais de Jouyet là, mais on pourrait parler également de Jacques Attali ou d'Alain Minc.
Et oui.
Attali, il a soutenu Manuel Valls, en fait, et puis Alain Minc, lui, il souhaitait qu'Alain Juppé devienne président de la République. Et donc, en fait, tous pensait effectivement qu'Emmanuel Macron devait passer par des élections intermédiaires, ce que lui-même avait qualifié un peu ironiquement d'un cursus d'un autre temps. François Hollande et Manuel Valls, d'ailleurs, l'ont sous-estimé pour cette raison-là. Ils n'ont pas cru qu'Emmanuel Macron pourrait devenir directement président de la République sans avoir eu un quelconque mandat électoral. Et c'est vrai que ensuite, sur le plan idéologique, par exemple, dès l'été 2016, Emmanuel Macron confie à Richard Ferrand, un de ses soutiens, qui vient du Parti Socialiste, il lui dit, bien avant la qualification de François Fillon à la primaire de la droite, mais il lui dit « la campagne se jouera à droite ». Et dès lors que Manuel Valls sera éliminé en février 2017, d'ailleurs, il fait une campagne à droite.
Oui. Alors, durant cette campagne, précisément, puisqu'on en parle, il y a différents clans autour d'Emmanuel Macron. Qui sont les gens qui le soutiennent, qui sont en marche avec lui? Je parle des dirigeants, dont beaucoup deviendront ministres, d'autres pas. Mais d'où viennent-ils? De quelle sphère politique?
Ah durant la campagne, il y a à la fois ce qu'on a appelé la bande de la planche autour du communicant Ismaël Emelien, donc ça c'est les anciens strauss-kahniens. Il y a Alexis Kohler qui sera le vrai directeur de campagne officieux, qui lui était le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron et qui est entre la gauche et la droite, c'est-à-dire haut fonctionnaire. Il y a bien évidemment Brigitte Macron qui, elle, est en fait beaucoup plus d'obédience de droite. Donc c'est déjà, en réalité, c'est déjà très varié. Par rapport à la petite musique qu'on a beaucoup entendue dans les médias en 2016-2017 sur, et que Emmanuel Macron lui-même a utilisé, mais sur l'homme du progressisme, qu'il était de centre-gauche ou social-libéral. Non, le projet d'Emmanuel Macron, dès cette époque-là, il est beaucoup plus un projet vertical, comme on l'a dit ensuite, c'est-à-dire il a une lecture très bonapartiste de la Ve République. Il s'en cachait pas auprès de certains de ses proches. Mais c'est vrai que, comme il a multiplié les discours différents en fonction de ses interlocuteurs, parce que ça, c'est l'autre caractéristique d'Emmanuel Macron, c'est qu'il tend un miroir différent à chacun de ses interlocuteurs. Et donc ça, ça a multiplié les quiproquos, parce que, par exemple, François Bayrou, il a cru que Emmanuel Macron est un homme du centre.
Alors justement, j'allais vous poser la question. Oui. C'est intéressant, dans notre système bipolaire de la Ve République, la notion de centre est difficile à évaluer. Mm-hmm. Est-ce que vous diriez que Emmanuel Macron est un centriste ?
Non, pas du tout. Les centristes l'ont cru, ou même, par exemple, un soutien de François Bayrou, comme le journaliste Jean-François Kahn, qui adore mettre en avant le centrisme révolutionnaire, ça c'est sa formule, ont cru qu'Emmanuel Macron était centriste, mais pas du tout. Emmanuel Macron, il est en fait dans la pure tradition bonapartiste de l'État. En réalité, il a une faible culture démocratique, il situe du point de vue des institutions plutôt à droite dès le départ. Par ailleurs, dans sa plus jeune, quand il était plus jeune, tout le monde a oublié qu'il avait eu un parcours également du côté de Jean-Pierre Chevènement. Ouais. Donc un homme très régalien et qui aime l'autorité et l'ordre. Et donc ça fait partie de la multiplicité du parcours idéologique de Macron. Concernant Bayrou, pour revenir à votre première question, c'est un exemple parfait qui montre que Emmanuel Macron n'a rien laissé au hasard dans son ascension présidentielle. Ce que je veux dire par là, c'est quand Bayrou rejoint Macron, le soutient en février 2017,
oui, février,
coup de tonnerre politique, en fait, ça fait, comme vous l'avez rappelé très justement, ça fait des mois qu'il le traite, pas directement, il utilise à la fois Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, et Anne-Marie Idrac, ancienne personnalité de droite et ancienne patronne de la RATP, mais il utilise également Jean-François Kahn, et pendant plusieurs mois, c'est-à-dire depuis l'été 2016, il essaye de ramener à lui François Bayrou comme principal soutien de février, enfin ce qui interviendra en février 2017.
Et ça pèse quand même 4%. Et 4%, on sait que c'est largement suffisant pour gagner une présidentielle, ou la perdre, si on n'a pas les 4%.
C'est vrai. Et c'est vrai que dès février 2017, là pour le coup, tout ce que Emmanuel Macron présentait lui-même dans son discours assez démagogue parfois et assez populiste, je dois dire, à l'époque, le système politico-médiatique, les commentateurs politiques, les journalistes politiques traditionnels, les responsables politiques, ils ont commencé à comprendre que la candidature de Macron devenait sérieuse, en fait, avec le ralliement de François Bayrou.
France Inter. Affaires sensibles.
Marc Andevel, vous avez prononcé un mot juste avant le disque qui m'a interpellé. Vous avez parlé de populisme. Est-ce que le fait que Emmanuel Macron se présente comme le candidat du Nouveau Monde, genre ils sont tous ringards, ils sont tous mauvais, c'est un côté populiste. Est-ce que vous voyez le populisme de Macron à travers ça ?
Oui, tout à fait. Il avait, dès l'automne 2016, il se présentait dans son discours, tant public qu'auprès de ses interlocuteurs, comme le candidat anti-système. Lui qui vient pourtant entièrement, on va dire, du système méritocratique français et de ce qu'on appelle le système des grandes écoles à la française. Donc il a joué de ça. Il a joué de ça également parce que, pour contourner les partis politiques traditionnels et les médias politiques traditionnels, notamment les journalistes politiques à l'époque, il s'est adressé directement à ses supporters et par les outils technologiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire par les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, le numérique, lui a permis de mobiliser ses supporters dans un premier temps, et puis d'élargir son audience. Et c'est aussi pour cette raison-là que je le qualifie de populiste, parce qu'en fait, il a une parole politique qui est fragmentée en fonction de ses interlocuteurs et de ses publics. C'est-à-dire qu'il utilise des méthodes de marketing, et Et parfois, il s'en mêle les pinceaux, parce que bien évidemment, en fonction des publics, cibles, il ne tient pas forcément le même discours.
Bien sûr. Alors, pour arriver à faire un tel coup politique, parce que quand même, il sévisse au plus haut niveau de l'État, il faut croire en ses chances. Hein. Et dans le documentaire de Bertrand Delay, intitulé « En route vers l'Élysée », dès l'automne 2016, Emmanuel Macron se voit déjà au second tour et il s'y voit bel et bien contre Marine Le Pen. Écoutez.
À partir de décembre, je sens qu'il y a cette volonté de renouvellement et que les deux parties de gouvernement sont très fragiles. Et tout ça me conduit à penser que si j'arrive à mener à son terme l'entreprise de refondation qui est la mienne, elle occupera un espace central, progressiste, patriote, pro-européen, qui fait que sa vraie polarité, c'est le Front National.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Il y avait une expression dans l'équipe d'Emmanuel Macron à l'époque, à l'automne 2016. Ils avaient l'habitude de dire « on surfe sur la vague ». Alors la vague, c'était celle du dégagisme, c'est-à-dire du fort ressentiment déjà à l'époque d'une majorité de Français par rapport aux responsables politiques. Et Macron a entièrement joué de ce positionnement dès cette époque-là. Mmh. Et par ailleurs, pour revenir à la description de tout à l'heure sur le populisme, sa principale, on va dire, stratégie à l'époque, ça a vraiment été de s'adresser directement aux Français, à multiples occasions, de privilégier les images, les symboles. Ça explique d'ailleurs pour ça qu'il annonce son programme politique très tardivement au moment de la campagne, parce qu'il faut se souvenir, il présente son programme que début mars 2017.
Absolument. Un mot sur la proximité réelle ou supposée, bon apparemment réelle, d'Emmanuel Macron et de la finance et du patronat, ses relations avec Arnaud, Pinault, Niel. Alors Nicolas Sarkozy avait aussi des rapports étroits avec cette sphère-là. Mais en quoi les rapports de Macron sont-ils différents ? S'ils le sont.
C'est une grande question, mais disons que la grande différence entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, c'est que même si Emmanuel Macron a été banquier chez Rothschild, qui lui a permis d'avoir un matelas personnel en ce qui concerne ses finances, en réalité, sa vraie ambition par rapport à Nicolas Sarkozy, c'est vraiment le pouvoir. Nicolas Sarkozy, il aime davantage le business, on va dire. Et dans son rapport au grand patron, Emmanuel Macron est extrêmement ambivalent, parce que bien évidemment, comme il est passé par Rothschild, il était au cœur du capitalisme parisien. Bernard Arnault en fait bien évidemment partie. Mais au cours de son aventure politique en 2016-2017, le paradoxe, c'est que une bonne partie de l'establishment économique, et notamment le CAC 40, ne croyait pas aux chances d'Emmanuel Macron. À tel point d'ailleurs que vous citiez tout à l'heure ces dîners de fundraising, de collecte de fonds, oui, notamment à Londres et à l'étranger. Il y en a eu, mais ça ne lui a pas permis de récupérer suffisamment d'argent.
Ça veut dire que le financement de sa campagne a été difficile, contrairement aux apparences ?
Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est ce que j'ai découvert après enquête. Ça a été très compliqué pour lui au niveau financier durant sa campagne. C'est-à-dire qu'en réalité, les dons privés légaux, il n'en a obtenu que 5 millions d'euros à peu près. Mmh. Et il a bouclé le budget de sa campagne par des prêts bancaires, mais qu'il n'a obtenu qu'en toute fin de campagne, c'est-à-dire une semaine avant le premier tour. Mmh. Emmanuel Macron, en réalité, il s'est moins reposer entre guillemets, où il a moins été soutenu par les grands patrons ou les grandes fortunes que vous avez citées, que par des figures plus méconnues parfois, mais de l'ancien monde politique. Je pourrais citer par exemple Michel Charras, ancien ministre du budget de François Mitterrand, avec un très gros réseau politique de droite comme de gauche. Michel Charras avait soutenu Nicolas Sarkozy en son temps. Et donc en fait, dans son ascension politique sur l'élection présidentielle entre 2016 et 2017, Emmanuel Macron, il est plus l'homme, entre guillemets, de ses personne de l'ombre de la politique, plus que des grands patrons. Après, c'est vrai qu'à l'époque, il a utilisé des grands médias appartenant à, par exemple, Arnaud Lagardère pour le groupe Hachette, le groupe Lagardère, où on l'oublie aujourd'hui, mais il était très proche du groupe Bolloré par l'intermédiaire de Yannick Bolloré, le fils de Vincent Bolloré.
Okay.
Et donc, il a utilisé aussi ces canaux-là, bien évidemment.
Bien. Je disais ok, d'un air un peu impatient parce que le temps qui nous est imparti est terminé. Merci infiniment en tout cas, Marc Andevelde. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le destin présidentiel d'Emmanuel Macron. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmas.